Audiolib présente Perspective. De Laurent Binet. Lu par Nicolas Germag,
Françoise Cadol,
Emmanuel Lemire
et Marion Trintignant.
Essayez donc de découvrir qui je suis d'après mes mots et mes couleurs. Orhan Pamuk, mon nom est rouge. Les temps sont durs pour l'art. Michel-Ange, lettre à son père. Préface. Après tout, il ne sera pas dit que je ne sais pas me repentir. J'avais des vues très arrêtées sur Florence et les Florentins. Gens raisonnables, bien élevés et bien polis, aimables même, mais dénués de passion, inaptes au tragique et à la folie. Parlez-moi de Bologne, de Rome ou de Naples. Pourquoi donc, pensais-je, Michel-Ange avait-il fui sa patrie pour ne jamais y revenir? Rome, qu'il a pourtant vilipendé toute sa vie, était l'écrin qu'il lui fallait. Et les autres? Dante, Pétrarque, Vinci, Galilée, des fuyards et des exilés. Florence produisait des génies, puis les chassait, ou ne savait comment les retenir. Et voilà pourquoi il avait cessé de briller depuis son glorieux Moyen-Âge. Je voulais revivre autant des guelfes et des gibelins, mais guère au-delà, car je pensais que, passé, mettons, 1492 et la mort du Magnifique, tout s'était éteint là-bas. Le moine Savonarole n'avait pas seulement tué la beauté en intimant à Botticelli de brûler ses toiles. Il avait épuisé le goût de l'idéal en réduisant l'idéalisme à son fanatisme borné. Après le départ de Léonard et celui de Michel-Ange, que restait-il? Ou plutôt, qui? Je faisais peu de cas des Pontormo, des Salvati, des Cigoli. Et Branzino me semblait trop sec et trop froid avec ses teints de porcelaine et sa manière dure. Aucun de ces maniéristes, selon moi, ne pouvait souffrir la comparaison avec n'importe qui de l'école de Bologne, et je me moquais de Vasari qui nous avait si bien vendu ses peintres florentins. Quant à moi, j'idolâtrais Guido Reni, dont j'estimais qu'il avait porté la beauté au point le plus élevé parmi les hommes. Je pouvais rendre aux florentins qu'ils savaient dessiner, mais je leur reprochais leur manque d'expression. Tout était trop sage, trop lisse. Au fond, je leur préférais de loin n'importe quel Hollandais. Eh bien, j'avais tort, je le confesse, et il fallut les circonstances que je m'en vais vous conter maintenant pour me tirer de mon aveuglement. Car voir, c'est penser. Le spectateur aussi doit mériter son tableau. J'étais un sot, et si je le suis encore certainement, au moins inclinais-je aujourd'hui à rendre justice à qui de droit. Florence, au mi-temps du XVIe siècle, était un creuset dans lequel bouillonnaient des passions tout autant qu'un terreau où fleurissaient les génies. Et ceci, bien entendu, explique cela. La manière, voilà tout. Or donc, je visitais la Toscane il y a quelques années, et tandis que je furetais dans une échoppe d'Arezzo, en quête d'un petit souvenir à ramener en France pour mes amis, au lieu de quelques statuettes étrusques, un antiquaire manchot me fit offrir à vendre un ensemble de vieilles lettres jaunies par le temps. Je humais cette liasse avec méfiance et demandai à les parcourir pour m'assurer de leur authenticité, ce à quoi il consentit. À la troisième, je sortais ma bourse et payais fort cher pour le paquet entier. Je sais l'histoire du XVIe siècle en Italie, et je crois que ce qu'elles contiennent, aussi stupéfiant que cela paraisse, est parfaitement vrai. Je retournai à mon hôtel et lus d'une traite l'histoire qui va suivre. Oui, c'est bien d'une histoire qu'il s'agit, et celui qui a patiemment regroupé ces lettres, quelles qu'ils soient, ne s'y est pas trompé en accomplissant ce travail d'archiviste admirable, titanesque. Celle-ci forme un tout que je dévorais jusqu'à l'aube et dont je recommençais la lecture au matin. D'abord, j'avais saisi l'intérêt de rassembler ces lettres.